la Terre au Carré, c'est Mélinda de Bobigny. Je vous appelais pour compléter les propos de Camille sur la publicité. Bon, déjà par rapport à ce que disait votre intervenant, je pense qu'on dépenserait pas 1300 milliards de dollars par an si la pub n'était pas efficace. Et je voulais vous parler d'une initiative citoyenne européenne pour interdire la publicité pour les énergies fossiles, en incluant aussi les voyages en avion, les voitures thermiques, etc. Et aussi le sponsoring des politiques par les entreprises qui exploitent ces énergies fossiles. Par exemple, il faut savoir que la présidence de l'Union européenne est sponsorisée par des entreprises pétrolières ou des constructeurs automobiles. Et donc, une initiative citoyenne européenne qui s'appelle Ban Fossil Fuels Ad, et la Commission européenne, qui a plus d'un million de signatures, va devoir répondre à cette demande et éventuellement formuler une proposition de règlement européen. Si vous pouvez relayer, ce serait super. Merci beaucoup. Au revoir.
Bonjour, c'est Gérard de Toulouse. Je viens d'écouter avec intérêt votre émission sur les penseurs de l'écologie. J'ai été étonné, voire choqué, par une absence, celle de René Dumont, dont vous n'avez même pas mentionné le nom. En 1967, à Toulouse, j'ai assisté à une de ses conférences. Il a parlé des premiers travaux du Club de Rome, qui était déjà actif, et avec une lucidité extraordinaire, il a ensuite énuméré, envisagé tous les problèmes et toutes les difficultés qui allaient se poser dans l'avenir à l'humanité. Et c'était saisissant. On barbote aujourd'hui dans ces problèmes et dans ces difficultés. Et Dumont a particulièrement insisté sur la nécessité d'une sobriété collective et individuelle et sur le risque immense représenté par la surpopulation. C'était en 1967.
Bonjour Mathieu, c'est Corinne de Marsannay-le-Bois. Donc je vous soutiens vous aussi avec toute votre équipe et Radio France, France Télévisions et tout l'audiovisuel français public. Je vous souhaite une bonne journée. C'est pas grave si vous êtes en grève, parce qu'avoir un avis différent, ça nous change. Bonne journée à tous.
Bah bonjour La Terre au Carré, c'est Karim à Lyon. Bah, je voulais en fait vous parler d'une problématique qui, selon moi, elle n'est pas assez mise en avant, c'est-à-dire l'aspect sociologique du changement climatique. Parce que ce que je lis d'ici et de là, les jeunes parents ne veulent plus avoir d'enfants parce que l'avenir n'est pas rose pour la planète. À bientôt, bientôt.
Merci Karim pour votre appel et restez à l'écoute de l'émission parce que justement on va aborder cette question des enfants et de l'empreinte carbone dans un instant avec nos invités. Demain ce sera le dernier répondeur de la saison avant de se retrouver à la rentrée. C'est donc le moment de nous appeler si vous avez un message urgent à nous faire passer ou des suggestions d'ailleurs à nous faire également pour la saison 4 de l'émission que vous retrouverez dès le 29 août. Pour le répondeur, le 01 56 40 45 45. Il s'agit d'une question épineuse et clivante lorsqu'on veut aborder les causes de la crise écologique. Sommes-nous trop nombreux sur la planète? Cette question, nous l'avons souvent repoussée à plus tard, tellement la discussion semblait impossible à aborder sereinement. Et puis, notre confrère reporter a décidé de publier un dossier complet sur le sujet. C'est donc l'occasion aujourd'hui d'essayer de comprendre ensemble si la démographie et les naissances représentent vraiment le problème lorsqu'il s'agit de réduire notre impact sur Terre et limiter nos émissions de CO2 en particulier. Pour en parler et répondre à vos questions, nous sommes en studio avec l'agent journaliste Laure Noila et l'ingénieur et blogueur Emmanuel Pont. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. Laure Noila, vous êtes journaliste à reporter.net, donc le quotidien de l'écologie qui publie 4 articles sur cette question donc de la démographie. Emmanuel Pont, vous avez publié de votre côté cet ouvrage « Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ?» entre questions de société et choix personnels, c'est aux éditions Payot. Et puis nous sommes en duplex de Marseille avec vous Valérie Golaz. Bonjour.
Oui, bonjour à vous.
Vous êtes directrice de recherche à l'INED, l'Institut National des Études Démographiques. Vous êtes spécialiste de l'Afrique et vous travaillez également au LPED, c'est le Laboratoire Population, Environnement et Développement. Alors que la planète va franchir dans les prochains mois le cap des 8 milliards d'habitants, sommes-nous trop nombreux pour le système Terre? Eh bien, on en discute avec les messages des auditeurs également qui arrivent sur la page de La Terre au Carré, les réseaux sociaux et l'application France Inter. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
On passe au vert à 14h30.
Avec pour ceux qui ont hâte de piquer une tête et de pousser un de satisfaction en entrant dans la mer, et ben sachez que vous n'êtes pas seul dans l'eau. Et je ne parle pas de nos amis poissons, plutôt de nos ennemis poissons.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Étienne Bertin. Aujourd'hui, le dossier a été préparé par Lucie Sarfati. Maxime Goudard nous accompagne à la technique.
Mathieu Vidard, La Terre au Carré. Sur France.
France Inter.
Pardon, hein, mais vous en faites quoi du fait qu'on parle tout le temps de la crise, de la survie ? Dans les médias, la télévision, partout, à la radio ?
Oui, mais Marianne, c'est pas parce que c'est partout dans les médias que c'est vrai. Je veux dire, pour les médias, c'est leur fond de commerce, c'est du pain béni pour eux. Hein. Foutre la panique, je veux dire, ils adorent ça. Ça, c'est dégueulasse. C'est ça qui fait peur à nos gosses aussi.
Je m'étonne.
Excusez-moi, je peux intervenir ?
Bien sûr.
Bah, le truc, c'est que vous parlez depuis tout à l'heure, mais il y a une solution.
Ah bon ?
Mm-hmm.
C'est quoi ?
On est beaucoup trop nombreux sur Terre.
Bah, ça dépend d'où.
Ouais, c'est vrai que c'est...
Donc, moi, je vous apporte une solution. Il faut éliminer un adulte sur deux.
Voilà, solution radicale proposée par le film La Croisade. Et justement, on va répondre à la proposition de cette adolescente dans un instant, film de Louis Garrel. Et pour la planète, faut-il faire moins d'enfants ? Eh bien, on s'attaque donc à ce sujet en partenariat avec Reporter.net. Laure Noilla, donc c'est vous qui avez eu la lourde tâche d'enquêter sur le sujet. 4 articles qui paraissent donc sur le site de votre quotidien de l'écologie. Par quel bout on s'y prend, Laure, pour aborder ce sujet hautement inflammable ? Et comment vous êtes emparée du thème ?
Mais c'est parce qu'il est inflammable que justement ma personnalité fait que j'avais envie de travailler là-dessus. Non, en fait, c'est quelque chose sur lequel j'avais déjà travaillé pour le proposer en documentaire à Arte. La chaîne l'avait refusé en trouvant trop compliqué. Et justement, je me disais, mais parce que c'est trop compliqué, c'est ça qu'on doit absolument traiter. J'ai proposé à Reporter qui, évidemment, a foncé parce que le sujet, comme vous l'avez dit, est super clivant. Et en plus, c'est quelque chose qui touche à l'intime. Normalement, la question de la politique des naissances, la question de mettre un enfant au monde, etc., ne concerne personne d'autre que la chambre à coucher. Et en réalité, toutes les politiques de naissance, de subvention, d'incitation, etc., ça existe déjà. Donc on est au croisement, comme on le lit aussi dans le livre d'Emmanuel Pont, ouais, d'un choix de société, mais aussi d'un choix individuel. Et c'est passionnant, tout ça mis en regard des fameuses limites planétaires, de la crise écologique et de tout temps, depuis très 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 longtemps, on se demande, est-ce qu'on ne serait pas un peu trop nombreux ? Et est-ce que la population n'aurait pas augmenté de manière fulgurante sur le dernier siècle ? Moi, je sais pas, je dois avoir 48 ans, je suis passée, entre le moment où je suis née et aujourd'hui, ça a doublé, quoi. On a le 8 milliardième petit être humain est dans le ventre de sa mère aujourd'hui. Ouais. Et quand je suis née, on était 3 milliards et demi. Donc, effectivement, il y a un doublement en l'espace de mon existence, ça pose question. Et est-ce que la jauge du bateau de terre,
c'est ça,
n'est pas dépassée ?
Un peu trop rempli, même. Alors, c'est la question, puisque Emmanuel Pont pourrait dire effectivement, si on divise la population par deux, on va aussi diviser nos émissions de gaz à effet de serre par deux. Or, c'est loin d'être aussi simple que ça. Vous qui avez enquêté pendant plusieurs années sur le sujet, qu'est-ce qui est particulièrement tabou, justement, lorsqu'on se pose cette question de savoir si on est trop nombreux aujourd'hui sur la planète ? À quoi on se frotte, finalement, immédiatement ?
Alors, le point Godwin n'est jamais très très loin sur ce sujet où il s'agit de contrôler la natalité des gens. C'est-à-dire, d'une part, à l'échelle individuelle, est-ce que on doit avoir des mesures pour interdire et qui décident ? Et d'autre part, à l'échelle internationale, à savoir qu'aujourd'hui, les pays les plus riches, qui sont aussi les plus polluants, ont une natalité qui est plutôt faible, et la croissance est plutôt dans des pays pauvres, mais qui, eux, sont beaucoup moins polluants.
C'est quoi le rapport, justement, si on peut comparer, par exemple, un Américain à un Nigérien,
par exemple, si on prend un Nigérien, donc il y a 7 enfants par femme au Niger aujourd'hui, l'empreinte carbone du Nigérien moyen est à peu près 100 fois moins que celle de l'Américain moyen. Donc c'est sûr que... Aux échelles de temps de la crise climatique, aujourd'hui, la natalité au Niger ne change pas grand-chose.
Ouais, on y reviendra, mais c'est déjà une réponse finalement en montrant que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'enfants qu'on pollue plus que les autres. Hein. Il faut évidemment voir les choses au cas par cas, et en particulier entre les pays riches et les pays pauvres. Valérie Golaz, est-ce qu'on trouve des chercheurs qui arrivent aussi à s'attaquer globalement à ce problème-là, à cette question qu'on se pose sur l'effet de la population sur les ressources planétaires ?
Oui, bien sûr, il y en a, mais il y en a peu, en fait, et il faut comprendre que c'est effectivement une question extrêmement complexe. Et pour moi, se pose vraiment une question d'échelle d'observation. En fait, ces observations démographiques sur la population mondiale, elles sont le fruit principalement des Nations Unies, de la division de la population qui, tous les 2 ou 3 ans, sort de nouvelles estimations et projections de la population jusqu'à 2050, 2100. Mais la plupart des démographes travaillent plutôt au niveau local, en fait, ou au niveau national, par des analyses approfondies sur des domaines spécifiques, sur ce qui fait la dynamique de la population, c'est-à-dire la mortalité, la fécondité ou les migrations. Ils travaillent là où les sources de données existent. Donc c'est ce qu'on fait, et c'est à ce niveau-là qu'on observe vraiment la complexité en fait de la démographie dans l'ensemble du système social et des questions de développement économique et social, de politique publique, d'environnement.
On va essayer d'éclairer justement cette complexité, et on verra, Laure Noyla, finalement, que les conclusions sont, elles, par contre, assez simples à comprendre quand même, hein, quand on pose le problème.
Encore une fois, ça dépend d'où on se place.
Ouais, mais
c'est
quand
compliqué
même.
Parce que, de toute façon, il y a le concept de population globale n'existe pas. En réalité, 8 milliards, mais 8 milliards de quoi ? De consommateurs européens, de Burkinabés, de Japonais qui vieillissent et qui, en l'an 3000, n'existeront plus sur Terre, à ce rythme de non-reproduction, on va dire. Donc, en fait, oui, si on cadre tout ça dans la question des limites planétaires, je crois que la conclusion est simple, c'est il faut diviser par 10 nos consommations dans les pays les plus riches, par 20 parfois, oui. Il faut aller à ces fameuses 2 tonnes de CO2 par habitant et par an pour ne pas dépasser les fameux plus de degrés, etc. attendus. En réalité, doit-on regarder que le bilan carbone ? Doit-on regarder une empreinte écologique ? Quels sont les indicateurs qui nous donnent des informations fiables ? C'est pas si simple quand même, mais on sait que avoir des voitures, des vacances, des beefsteaks, ça pose un peu problème.
À partir de quand, Emmanuel Pont, on a commencé à s'inquiéter de la croissance démographique ? Alors, si on fait un petit historique rapide, parce que ça a marqué durablement les esprits quand même. Hein.
Peut-être depuis Platon, qui s'inquiétait déjà que les collines en Grèce avaient de moins en moins d'arbres et qui a réfléchi à un nombre idéal de citoyens dans sa cité. Bon, alors, c'est des citoyens, hein, comptaient pas trop les femmes ou les esclaves à l'époque. C'est une interrogation qui date du début des sociétés humaines et qui continue et qui a toujours été lié au rapport de pouvoir, à qui contrôle la natalité des gens, quand les gens sont trop, est-ce qu'ils risquent de se révolter, est-ce qu'il y a assez à nourrir pour tout le monde, etc. Ça tire beaucoup de questions.
Sauf que récemment, il y a quand même eu au cours de ce siècle des ouvrages qui ont particulièrement marqué les esprits, La Bombe P en particulier, et ça reste...
Le siècle d'avant alors.
Au siècle d'avant, c'est vrai, pardon, 20e siècle, c'est vrai. 1968, pour être tout à fait exact. Hein. Ça a été un carton, un best-seller.
Tout à fait. Alors, grand best-seller de l'écologie qui a frappé les gens. Alors, il me semble qu'on parlait de René Dumont en introduction.
On va l'entendre d'ailleurs tout à l'heure, on entendra sa voix.
Je ne vais pas le déflorer, mais c'est devenu, à l'époque où l'humanité a vraiment pris conscience du problème de l'écologie, il y a eu en parallèle cette prise de conscience de l'augmentation de la population, et en particulier dans le tiers-monde. C'est-à-dire que les pays les plus riches étaient déjà plutôt sur leur fin de transition démographique, je pense qu'on va revenir sur ce concept, et la population du monde augmentait beaucoup, et donc la population semble un coupable idéal où, en même temps que la pollution augmente, que les espaces sauvages se diminuent, etc., on se rend compte que la population augmente aussi très vite. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas un lien ? Alors, il y a évidemment un lien, mais est-ce que c'est le lien principal et est-ce que c'est une solution ?
On va en discuter. Valérie Golaz, La Bombe P, ça a toujours marqué les esprits. Ça marque encore d'ailleurs les argumentaires, au fond, sur cette question-là.
Oui, bien sûr, en fait. Ça a été vraiment, dans ces années 60, 70, quelque chose de majeur. Et c'est pas uniquement dans la publication de La Bombe P, mais les conférences de population, en fait, des années 60, des années 70, les préoccupations internationales lancées autour de la première notion de population mondiale avec les premières estimations de population des Nations Unies dans les années 50. Oui. C'est vraiment ça qui a levé l'inquiétude. On avait à l'époque la Chine et l'Inde qui étaient des acteurs majeurs de la croissance démographique internationale et qui menaçaient beaucoup les équilibres géopolitiques de l'époque.
Camille.
Emmanuel Pont, pourquoi vous avez choisi d'écrire sur ce sujet ? Qu'est-ce qui a allumé la flamme ?
Alors, je pense que comme beaucoup de gens, ça a excité ma curiosité en tant que sujet qui semble un peu tabou, mais qui en fait l'est pas tant que ça, parce que beaucoup de gens en parlent, que ce soit de la population mondiale ou des questions d'avoir ou pas des enfants. Et du coup, le fait qu'ils sentent un peu le soufre, et finalement, en tirant les fils, se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses à explorer et beaucoup d'idées reçues qui circulent et sur lesquelles il faut revenir.
Mais votre point de départ, c'était quoi ? Il n'y a pas eu un déclencheur, quelque chose ?
Alors, pas vraiment. Alors, j'avoue qu'à titre individuel, je me suis posé la question. Avant de faire le choix d'avoir ou pas des enfants avec mes compagnes.
Vous en avez ?
En cours. Et par contre, le déclencheur, non, c'est plus cette idée de se dire, est-ce qu'il n'y a pas par hasard un éléphant dans la pièce, ce sujet qui est extrêmement important, et est-ce qu'il n'y a pas une solution là-dedans qu'il faudrait explorer, pourquoi ?
Ouais, on va voir comment vous l'avez exploré, hein, parce qu'il y a des choses très factuelles finalement qui permettent de donner aussi des réponses intéressantes à cette question. Laure, rapidement.
Oui, très rapidement. Plus tard. Enfin, oui. Si c'est très rapide. Non, en gros, c'est parce que la question de faire ou pas des enfants, elle est multifactorielle, on le sait bien. Et tout ramener ça exclusivement à l'écologie, c'est un peu un biais médiatique qui est pas très sympa, ouais, et qui est pas très réaliste. Les jeunes qui aujourd'hui disent je ferai pas d'enfants, je veux pas d'enfants, d'abord on verra ce que le plateau de la vie leur servira. Mais on est dans un élément très multifactoriel. Hein. Donc, ouais, je ne fais pas d'enfants pour la planète. Franchement, la planète s'en tape. Vous pouvez faire autant d'enfants que vous voulez.
Ouais. Ça, vous allez déjà à la conclusion finalement de l'émission. Mais c'est bien.
C'est pas spoiler. Ce que je voulais dire.
Ah, quand même.
C'est par rapport au questionnement, ouais, individuel.
On verra derrière qu'il y a des études qui ont marqué les esprits, en particulier en 2017, une étude qui proposait justement, qui disait, qui argumentait l'idée de ne pas faire d'enfants, pouvant être d'ailleurs le geste le plus écolo. On va en discuter dans un instant. De Nadia McAneuf avec Ethiopia et Thierry Dupin pour la programmation musicale de La Terre au Carré.
La Terre au Carré sur France Inter.
Si nous continuons l'évolution actuelle de la population et de la production industrielle démentielle, nous allons à l'effondrement total de notre planète, de la vie sur la Terre, vers le milieu du siècle prochain.
L'agronome René Dumont, donc, effectivement, allusion de notre auditeur tout à l'heure dans le répondeur, c'était en 1974. On parle limite planétaire et démographie, donc en partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie. Emmanuel Pont, est-ce qu'il avait tout faux, René Dumont, quand on l'entend justement dire ça?
Alors, il n'avait pas tout faux parce que il s'inquiétait d'un sujet de fond, qui était, est-ce qu'on est capable de nourrir l'humanité? Quels sont les problèmes écologiques qu'il y a autour? Et donc, s'inquiéter de la population n'est pas en soi quelque chose d'inconséquent. Par contre, ce qui est particulier, c'est de considérer la population comme facteur principal de cette question-là. On se rend compte d'ailleurs que c'est... ces inquiétudes qui étaient aussi celles d'Erlich, de la bombe P dont on parlait auparavant, de famine qui allait arriver, ne se sont absolument pas matérialisées.
Il y a eu donc c'était plus sur l'aspect alimentaire que
alimentaire.
Voilà, que sur les conséquences globales.
Je voudrais justement reprendre une formule de Erlich que j'adore personnellement. C'est en gros, quand on veut calculer la superficie d'un rectangle, on prend la largeur et la longueur. Ne prendre que la longueur ou la largeur, ça vous donnera pas la superficie. Et la question qui se posait là, c'était à l'époque, hein, sur l'empreinte de l'humanité sur les limites et les ressources, etc. Si on ne prend que la population, il nous manque la consommation. Donc c'est vraiment la consommation par la population. Et allier les deux, là, pour du coup, nous donne plus d'indications sur le poids.
Et c'est ce qui fait la grosse différence entre les pays riches et les pays pauvres. On aura l'occasion, évidemment, d'en reparler, Camille.
On a des messages plus ou moins sympathiques sur franceinter.fr. Je vous donne celui de François qui nous écrit: n'oubliez pas qu'il y a 1,5 milliard de personnes non recensées, surtout en Afrique et en Chine. Il pose pas la question, il l'affirme. Alors, Valérie Golaz, il a raison, François?
C'est difficile de répondre comme ça. Il y a des pays dans lesquels il n'y a pas de recensement de population, certes, depuis de nombreuses années parfois, comme par exemple la République démocratique du Congo, qui n'a pas eu de recensement depuis 1984. Mais ça ne veut pas dire pour autant que sa population n'est pas estimée et comptabilisée dans les chiffres de population mondiale.
Alors Valérie Golaz, justement sur les chiffres, on est donc pratiquement 8 milliards. Aujourd'hui, Laure Noëlla nous le disait tout à l'heure, déjà, cet enfant, ce 8 milliardième enfant doit être dans le ventre de sa maman en ce moment. On va donc franchir ce cap. Est-ce que la progression est exponentielle ou pas de la population mondiale ?
La population, on a pu croire dans les années 60 justement que la progression était exponentielle, mais depuis une cinquantaine d'années, la croissance démographique diminue à l'échelle de la planète. Donc on ne peut plus du tout dire à l'heure actuelle que la croissance est exponentielle.
Et la fécondité mondiale, ça représente quoi aujourd'hui par femme ? Pour donner des chiffres qu'on comprenne bien aussi, Valérie Golaz.
Alors là, vous me posez.
Alors, Laure va nous les donner parce que
qui est le continent qui porte le plus gros de la croissance à l'heure actuelle. On est à 4 enfants par femme, 4,3.
Je crois qu'au niveau mondial, on est à 2,5 enfants par femme. Voilà. D'après les chiffres de prospective de l'ONU de 2019, qui aurait dû réactualiser en 2021,
ça va être
qui
fait,
va
là,
probablement le faire incessamment sous peu. Alors, une croissance non exponentielle, c'est une croissance quand même. Alors, je crois que la barque humaine s'alourdit de 86 millions de personnes chaque année, l'équivalent de l'Allemagne, on va dire. C'est 1,2% ou 1,1% de progression. Donc, une progression très lente. Maintenant, on n'est plus du tout sur une exponentielle. Mm-hmm. On est limite sur un logarithme népérien, pour ceux qui adorent les maths. Et donc, du coup, ça progresse quand même, mais effectivement, dans des proportions de plus de 100 millions de personnes à peu près par an.
Et horizon 2100, on sera combien à peu près là?
Alors, il y a un pic qui, d'après toujours les chiffres de l'ONU, le pic se situe entre 2050 et 2100, plutôt vers 2100 d'après les chiffres de l'ONU, mais des études contradictoires ou différentes financées par d'autres organismes nous disent qu'on pourra avoir un pic de l'humanité en 2064, c'est extrêmement précis, et on ne dépasserait pas les 9 milliards d'individus, mais normalement 9,5 milliards d'individus. Mais normalement ce 2100 là, c'est 10,5.
C'est ça.
Milliards d'individus.
Pratiquement 11 milliards.
Voilà, dans ces ordres de grandeur. Ouais. Mais effectivement, il faut réviser ces chiffres régulièrement parce que ça change. C'est de la dynamique. C'est pas du tout figé comme ça.
Message de Catherine qui nous écrit que le problème n'est pas tant le nombre que le mode de vie. Entièrement d'accord, nous écrit-elle, avec votre intervenant qui compare un enfant nigérien à un enfant américain. Chez nous, comme aux États-Unis, il faut se limiter, dit-elle, à 2 enfants parce que dans 20 ans, ils prennent l'avion pour Barcelone. Emmanuel Pont, la clé finalement, c'est pas le nombre d'enfants, c'est la consommation qui va être associé derrière à ces individus-là.
Alors, on peut dire que c'est la clé, notamment parce que la population en soi a énormément d'inertie. C'est-à-dire que si on a moins d'enfants, ça va mettre beaucoup de temps à avoir un effet sur la population globale, tout simplement parce que les gens vivent 80 ans. Donc, se priver d'un enfant à l'échelle globale, ça ne change pas énormément de choses. Par exemple, si on institue l'enfant unique, dès demain, il faut attendre près de 2100 pour diviser la population par deux.
Avec des effets comme en Chine, par exemple.
Alors, bien sûr, avec un déséquilibre de la population qui n'est pas forcément catastrophique, mais qui peut l'être quand c'est à cette échelle-là.
Et un vieillissement de la population.
Et un vieillissement, voilà. Ouais. Alors que, à l'inverse, la question de la consommation est quelque chose qui peut évoluer beaucoup plus vite, où on a moins de limites. Il y a aussi une question philosophique derrière. Alors moi, j'avoue que j'aime pas trop cette image de rectangle population fois consommation, parce que considérer que la population est une variable comme une autre, la population, en fait, c'est des individus. Ce sont des fins, pas des moyens.
Ce sont aussi des projets, par exemple, si on incite via des, enfin, dans des politiques publiques à avoir des enfants ou qu'on désincite à avoir des enfants, ce sont aussi des projets, comme ça, ce sont aussi des tables sur lesquelles on calcule pour avoir, je sais pas, des services publics, des retraites, des équilibres dans les pyramides des âges, une main d'œuvre super active, jeune, etc. Donc on a quand même au-delà, évidemment, on n'est pas dans l'éthique de supprimer les gens, ni de pas, mais de questionner. De faire monter au monde des individus.
En tout cas, si on prend les chiffres très
froids. Et puis, il n'y a pas que le bilan carbone, attention, hein, ouais, qui justement. Est un indicateur. Il y a le confort de vie. Je ne suis pas sûre que ne pas avoir de bilan carbone à 7 enfants par femme dans des capitales nigérianes, c'est super. Bon, très bien, il n'y a pas beaucoup de bilan carbone. Mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'assainissement d'eau, d'assainissement, de confort de vie, de logement, d'accès à des services?
À la santé, par exemple.
À du travail, évidemment. À de la santé. Enfin, voilà, c'est toutes ces questions-là qui se posent.
Valérie Golas, ça c'est absolument essentiel, justement, ces aspects qu'évoque la Nord-Loala sur l'accès par exemple à la santé hein, pour des populations, à la contraception pour les femmes.
Oui, tout à fait. En fait, on réfléchit, on discute de baisse de la fécondité, des moyens de faire. Effectivement, je suis d'accord avec Emmanuel Pont. Il y a cette inertie très forte qui fait que la croissance, de toute façon, est encore acquise pour quelques décennies. Mais même si elle se réduit, mais il y a quand même un problème de santé publique majeur qui est qu'il y a encore des femmes ou des familles qui n'accèdent pas aux moyens de contraception, par exemple, qu'ils souhaiteraient avoir, qui ont des grossesses non désirées, font des enfants alors qu'ils auraient préféré ne pas en faire. Et ça, c'est un problème de santé publique majeur, en fait, qui reste un enjeu aujourd'hui.
Et restons dans les chiffres, finalement, encore une fois. 86 millions de personnes arrivent sur la planète chaque année, mais il y en a 111 millions qui arrivent qui n'étaient pas désirées. Donc si déjà les 111 millions de grossesses non désirées étaient adressées en termes d'accès à des trucs de planification familiale, etc., là, on serait déjà dans un déficit, un solde migratoire négatif.
86 millions d'arrivants chaque année, combien de morts en parallèle?
Valérie Golas, est-ce que vous avez la réponse?
Est-ce qu'elle a la réponse?
La réponse non plus, mais ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, le nombre de naissances est supérieur au nombre de décès. C'est ce qui fait la croissance.
C'est ce qui fait
planétaire.
Les plus 86 millions.
Alors, on a très rapidement cette étude publiée par l'université de Lund en 2017 en Suède qui avait provoqué pas mal de remous en déclarant qu'éviter de faire un enfant supplémentaire serait le geste le plus écolo qui soit. Cette étude donc évaluait assez froidement le coût climatique précisément d'un enfant avec l'équivalent tonne CO2. C'était très clair, c'était 60 tonnes équivalent CO2 par enfant. Ce qui est assez considérable d'ailleurs en soi.
C'est considérable, mais c'est un peu idiot. Mais je pense qu'Emmanuel, dans son livre, a très bien déconstruit cette étude. C'est comme si vous attribuiez à une personne un coût carbone, enfin une dépense carbone tout au long de sa vie, dont on ne connaît pas tout à fait la longueur, la durée, dont on ne connaît pas tout à fait les évolutions de consommation au cours de son existence. Si on consomme aujourd'hui à 8 tonnes de CO2 par an et habitant en France, ça se trouve, dans 10 ans, on est à 5 tonnes les uns et les autres. Donc voilà,
Vous démontez effectivement ce calcul dans votre ouvrage, Emmanuel Pont.
Oui, on va rentrer un peu dans le détail. Alors, ce 60 tonnes, c'est énorme. L'empreinte carbone du Français moyen, c'est autour de 10 tonnes par an, et donc ça fait 6 personnes. Comment est-ce que avoir un enfant fait les émissions de 6 personnes? Alors, la manière dont ça a été calculé, c'est de compter toutes les émissions futures et hypothétiques de votre descendance future. Et donc, ça n'a absolument rien à voir avec arrêter de prendre l'avion, manger moins de viande ou ce genre de choses qui ont un effet sur le réchauffement aujourd'hui. Ce sont des choses qui sont futures et hypothétiques. Et d'autant plus hypothétiques que c'est sur un scénario extrêmement pessimiste où les émissions continuent à être stables jusqu'à la fin des temps.
Donc, mais c'est rigolo, c'est comme si on disait, l'enfant va éterniser votre bilan carbone de la même façon que le nom Mitterrand est rentré dans l'histoire parce que voilà, je sais pas, c'est comme une sorte d'héritage carboné que vous allez voir augmenter même une fois que vous serez mort.
Emmanuel Golas, pour conclure là-dessus avant de vous retrouver tout à l'heure, Valérie Golas, pardon, cette façon d'attribuer à une personne cette trajectoire de CO2, vous en pensez quoi alors?
Ben oui, mais c'est un peu le problème de toutes les projections et on est dans des systèmes humains complexes et en fait tout évolue. Donc c'est à partir du moment où on fige des caractéristiques dans leur aspect potentiellement les plus néfastes, forcément on obtient des scénarios catastrophistes.
Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre cette discussion et cette question, faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète?
France Inter. La Terre au carré.
Cap vers la mer avec vous, Camille Cronier, on passe au vert.
Oui, un petit bain de mer, mais ceux qui adorent ça et peuvent le faire, bien sûr, vont peut-être déchanter à la vue du journal Charlie Hebdo, qui titre ce mercredi « Bouillon chimique et bain de mer, le scandale du label Pavillon Bleu ». Dossier signé Fabrice Nicolino, qui écrit en gros « La mer, ça craint ».
La mer, en effet, ça craint terriblement. On fait semblant de croire qu'en recherchant deux bactéries fécales, les entérocoques d'une part et Escherichia coli d'autre part, c'est ça le principe du pavillon bleu, on fait semblant de croire que ça suffit à décréter qu'une eau de baignade est d'une excellente qualité écologique. Et ça, c'est un mensonge.
Oui, le journaliste regrette que, je cite, « tout soit dans le caca » parce que l'absence des deux bactéries en question ne veut pas dire que l'eau est pure pour autant. Il y a du monde qui barbote.
Les fleuves charrient des quantités très incroyables, très importantes, de cosmétiques, de microplastiques eux-mêmes chargés de polluants souvent toxiques, des résidus médicamenteux et des pesticides. Et tout ça fait une sorte de bouillasse, une sorte de soupe chimique dont on sait fort peu de choses, mais qu'on retrouve fatalement dans l'eau de baignade. Toutes les plages sont nécessairement remplies de ces polluants chimiques divers et variés.
Alors, exemple concret avec l'étude en cours de validation que vient d'achever la docteure en biologie marine Françoise Loquesse, qui n'a pas, je le précise, participé au dossier de Charlie Hebdo. Elle a cherché les traces de 5 molécules sur les côtes méditerranéennes.
On a fait un antibiotique qui s'appelle le sulfamethoxazole. On a fait un anti-épileptique qui s'appelle la carbamazépine, deux anti-inflammatoires, le diclofénac et l'ibuprofène, et le paracétamol.
Dont les traces, pour toutes, ont été retrouvées très diluées dans les masses d'eau, mais surtout dans des quantités bien plus importantes et inquiétantes chez le peuple marin, moule, mais aussi, par exemple, poisson, bog et séran pour l'étude.
Le diclofénac et l'ibuprofène ont été révélés, beaucoup dans les foies de séran, à des quantités supérieures au seuil de quantification. Le maximum, c'est 780 microgrammes par kilogramme de poisson.
Alors 780 microgrammes par kilo, c'est pas rien. La chercheuse l'affirme donc.
Nos poissons commencent à accumuler, les poissons littoraux sauvages, je précise, ce sont des animaux sauvages, c'est pas des animaux d'élevage, commencent à accumuler les médicaments qui sont contenus dans les masses d'eau.
Alors ne paniquez pas pour autant, Françoise Loquesse refuse d'être alarmiste, comme Fabrice Nicolino d'ailleurs.
Je ne prétends pas du tout et je ne veux pas qu'on imagine que ce que j'écris signifie qu'on risque sa peau en allant se baigner en mer. Non, je ne dirai jamais ça parce que je ne le pense pas.
En fait, ce qu'il dit, c'est voilà, ça existe, donc il y a cette soupe chimique. Que fait-on ? Parce que le problème, c'est que ni l'ANSES, ni les ministères, la Direction Générale de la Santé et tutti quanti, ne font ces analyses alors qu'elles ne sont pas dupes. Mais ça demande des moyens considérables, sans parler des conséquences potentielles sur l'industrie du tourisme, bien sûr. Quant aux conséquences sur la faune, la flore et nous, humains, alors là, il y a un gros point d'interrogation, d'où le fait de ne pas paniquer non plus. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y en a, c'est dangereux pour nous. Marc Valmassoni aimerait bien savoir, d'ailleurs, lui qui passe beaucoup de temps dans l'eau, puisqu'il est surfeur et responsable du programme Qualité de l'eau à la Surfrider Foundation.
Il n'y a absolument aucun paramètre chimique qui est imposé dans la surveillance. Les gens qu'on représente, en tout cas, ont besoin de cette information pour connaître finalement sur le court terme, est-ce qu'on a un impact ? Sur le moyen terme, si on évolue, si on se baigne pendant 10, 20, 30, 40 ans sur les mêmes spots de surf, est-ce qu'à force, on a un risque si on est exposé à des composants chimiques ? Et ça, il n'y a aucune étude, aucune info là-dessus.
Alors, un projet est en cours, ça s'appelle Curl, pour tenter de mesurer tout ça avec des capteurs posés directement sur les surfeurs.
Le terme exact, c'est des échantillonneurs passifs, ça joue le rôle d'éponge. Donc, j'équipe mes surfeurs avec un manchon de jambière et ils vont à l'eau une centaine de fois dans l'année. Et une fois que je récupère ces capteurs en fin d'année, je les envoie au laboratoire qui peuvent me faire les analyses, donc un screen très très large. On n'a pas spécifié les polluants qu'on cherche, on reste sur, on tape très très large. Donc, c'est du métaux lourd en passant par la substance médicamenteuse, aux cosmétiques, tout ce qui est pharmaceutique et compagnie.
Les premiers résultats sont attendus là pour la mi-juillet, avant donc que peut-être des solutions soient mises en place, mais on n'y est pas encore. La chercheuse Françoise Loquesse, qui s'interroge aussi sur l'effet cocktail de tous ces contaminants dans la mer, rappelle au passage que la France, en ce qui concerne les médicaments, est 4e consommateur mondial, donc peut-être déjà qu'il faudrait agir là-dessus. Elle rappelle aussi de ne pas jeter les mêmes médicaments n'importe où. Fabrice Nicolino, lui, pointe la source directement.
Tant qu'on n'arrivera pas à contrôler en amont de tout ça l'industrie chimique, tant qu'on acceptera de mettre sur le marché des molécules qui ne sont pas évaluées ou alors trop mal évaluées et qui se combinent les unes avec les autres, je pense vraiment qu'on parlera un peu pour ne rien dire.
Quoi. En attendant, le problème est exposé. Hein. Lui vous souhaite quand même un bel été.
Ah mais carrément, j'adore nager et je continuerai à le faire. Donc si ça peut rassurer quiconque, je ne pense pas que ça soit la fin du monde non plus.
J'espère. Voilà. Et ne faites pas pipi dans la mer. Merci beaucoup. C'était Camille
Sauveur. Visiblement, c'est pas plus grave.
Sur franceinter.fr.
Laure Noyla, Emmanuel Pons, ça vous fait, vous saviez tout ça?
Ça me fait vraiment réfléchir sur la pertinence du pavillon bleu, en fait, en réalité. Qu'est-ce qu'ils disent, eux?
Qu'il n'y a pas les fameuses bactéries.
Voilà, donc ils en cherchent deux, et puis c'est tout, et on s'arrête là.
Les bactéries,
effectivement, tous les enjeux, touristiques derrière sont tellement énormes qu'on n'ira pas bien plus loin.
Emmanuel Pons, ça vous donne envie d'aller nager cet été?
Alors, pas vraiment, mais je trouve ça intéressant parce qu'on en revient du coup à des questions de politique, de liens entre décisions publiques et économie, et c'est sans doute notre sujet aussi.
Et de nombre, si on était moins nombreux, est-ce qu'il y aurait moins de polluants dans les océans ?
Ce sera sur un deuxième dossier, ça, Laure Noyla. Allez, faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ? On poursuit cette discussion dans un instant avec vos messages nombreux sur le site de la Terre au Carré.
Je me promène dans la rue, phénomène délirant. Un défilé d'inconnus au profil différent. Chacun de son point de vue regarde l'autre fixement. Avant de devenir moi, j'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. J'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. Je discute avec qui que ce soit. Mon point de vue est gratos, je le donne à qui que ce soit. Union devant le matos, ça balance du qui que ce soit. Que je connais pas, qui que ce soit qui apparaît, peut s'ériger en ami. Les gens que je croise dans la vie rendent l'amour accessible. Ils me débouchent la vue, l'élargissent x fois, c'est pour ça, je suis ouvert à qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. J'aurais pu être qui que ce soit, qui que ce soit, qui que ce soit. D'où que tu viennes et qui que tu sois, ramène-toi avec qui que ce soit. On remet le qui que ce soit. Office de moi n'est qu'une version de toi, bifurqué au fil du temps vers un perso différent. La vie s'installe dans des corps dont la forme n'est qu'accessoire. Un destin de cas social, ça arrive à qui que ce soit, c'est pour ça. Reste ouvert à qui que ce soit, rappelle-toi, t'aurais pu être qui que ce soit. Des vêtements pour qui que ce soit, à manger pour qui que ce soit, un terrain pour qui que ce soit, de l'amour pour qui que ce soit.
La pente glissante,
c'est ça. Qui que ce soit, c'est Jacques sur France Inter. Et oui, nous sommes en direct, Laure Noyla. C'est comme ça que ça se passe ici.
La Terre au Carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard et Camille Cronier sur France Inter.
C'est un faux problème que de faire porter la responsabilité à la population, pour plein de raisons. La première raison, c'est que la moitié de l'émission des gaz à effet de serre est due exclusivement aux 10% les plus riches, c'est-à-dire finalement aux pays à faible natalité. Donc c'est factuellement faux de chercher le problème en Afrique. On voit bien que l'idée de faire porter la responsabilité à la démographie, c'est une façon de dire, si on était moins nombreux, on pourrait continuer à jouir encore un peu dans l'insouciance. Mais ça, en fait, c'est faux. La question, c'est plutôt de comprendre comment une amélioration ou un changement radical des comportements aurait un impact infiniment supérieur à celui de comportements qui restent identiques avec une démographie contrôlée.
Voilà, concis et pertinent en 2018. Aurélien Barraud pour aborder cette question de la démographie. Emmanuel Pont, vous voulez commenter ce qu'il vient de dire? Parce que je trouve que ça résume assez bien finalement ce dossier aujourd'hui, ce qu'on vient d'entendre.
Oui, tout à fait. Et on peut y ajouter qu'on a cette peur que les pays pauvres à forte natalité rattrapent notre consommation. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. en particulier le développement africain est très lent et c'est une des raisons pour lesquelles justement la natalité y reste aussi forte.
Alors Valérie Gola, justement, vous qui êtes spécialiste de l'Afrique, d'abord un mot quand même sur les chiffres, parce que Laure Noyla le dit dans son article au cœur de ce sujet sur la démographie, les chiffres donnent quand même le vertige lorsqu'on regarde la population africaine. De 800 millions en 2000, le nombre de personnes en Afrique passera à 4,5 milliards en 2100. Vous qui étudiez en particulier, je crois, le Kenya, qui a connu la croissance démographique la plus importante, quel est le taux de fécondité moyen par femme là-bas?
Oui, actuellement, on est tombé en dessous de 4 enfants par femme au Kenya.
Oui.
Mais il faut savoir que c'est l'un des pays, effectivement, qui a tiré la sonnette d'alarme dans les années 70, à la fin des années 70, au moment de l'enquête mondiale sur la fécondité, avec une fécondité nationale supérieure à 8 enfants par femme. Donc vous voyez une transition qui s'est effectuée sur moins de 40 ans, là, avec le passage de plus de 8 à moins de 4.
Et est-ce que ce nombre de vies humaines en plus au cours des prochaines décennies en Afrique est une mauvaise nouvelle pour les émissions de gaz à effet de serre de la planète, Valérie Golaz?
Non, ben ça, c'est le sujet d'Emmanuel Pont, mais effectivement, de toute façon, le plus il y a de monde, le plus il y a de gaz à effet de serre, mais on en a déjà parlé avant, les émissions provenant globalement des pays les moins développés sont très peu importantes au regard de celles qui viennent de chez nous et du développement en cours, même chez nous.
Ouais, donc Emmanuel Pont, l'argument africain, on le met de côté tout de suite.
Oui, j'avais calculé qu'aujourd'hui, les pays à forte natalité, c'est à peu près 2% des émissions mondiales. Donc c'est très peu, ce qui ne veut pas dire par contre que ça ne se traduit pas par des pressions locales sur d'autres sujets en termes de déforestation, d'eau, de biodiversité, etc.
Valérie Golaz, vous souhaitiez intervenir ?
Oui, je voulais aussi dire que cette croissance très forte du continent africain, elle est aussi liée à l'espérance de vie. Vous savez que l'espérance de vie à l'heure actuelle sur le continent africain, elle est de 63 ans, l'espérance de vie à la naissance. Il y a encore énormément de progrès qui peuvent être accomplis, en particulier sur la toute petite enfance, mais pas uniquement. Et c'est aussi ça la croissance, c'est aussi une amélioration sanitaire globale, c'est aussi vivre dans des meilleures conditions.
Oui.
Plusieurs messages d'ailleurs sur franceinter.fr sur ce même thème. J'ai voulu lire par exemple celui de David qui écrit non, faut pas arrêter de faire des enfants pour protéger la planète, mais pour protéger ces enfants-là. Je suis sidérée de voir tous ces jeunes couples continuer à organiser leurs projets d'enfants comme si tout était normal, alors qu'on sait dans quel état sera ce monde dans 20 ans. Et Aurore nous écrit aussi, comme vous le disiez, Laure Noyla, la planète effectivement s'en tape, mais il faut pas faire d'enfants par peur de l'effondrement, l'impact écologique, mais l'effondrement de l'écosystème qui ne pourra pas permettre à ses enfants donc d'avoir une vie, on va dire, heureuse. C'est ça le problème, finalement.
Bon, même si on était en Afrique, on revient donc du coup sur des questions européennes, hein, de personnes assez riches, éduquées, et qui se disent « je ne vais pas faire monter un enfant au monde ». Mais finalement, c'est aussi par amour pour cet enfant qu'on ne fait pas. Parce que quand on regarde les indicateurs de toutes les questions environnementales, de limites planétaires, de crise écologique, etc., dans les années qui viennent, on peut très bien laisser cette question à d'autres. On n'a pas besoin d'équations de Ehrlich, etc., pour se déterminer en disant je ne prends pas ce risque de mettre un enfant, ou je n'ai pas ce désir de mettre un enfant au monde parce qu'il va vivre quelque chose de l'ordre de la barbarie. On peut imaginer ça. De toute façon, l'avenir n'est pas écrit. Chacun prend bien sa décision là où il est dans son existence par rapport à tout ça. Mais là, ça nous éloigne des questions démographiques pures de l'Afrique et de son rapport au CO2. Effectivement, on l'a dit tout à l'heure, hein, il n'y a pas que le CO2 africain qui compte. L'Afrique n'a pas vocation à rester pauvre, ou alors on le dit tout de suite et là, du coup, on sort d'une hypocrisie générale sur les questions de développement. Il y a 33% d'Africains qui ont accès à l'électricité aujourd'hui. Est-ce que ça a vocation à durer? Il y a 950 millions d'Africains qui vont s'urbaniser d'ici à 2050. Quelles sont les villes africaines qui peuvent absorber des flux? Quels sont les réseaux d'assainissement d'eau, de logement, de réseau internet, d'électricité? Toutes ces choses-là posent aussi des questions.
Il y a aussi la question, Emmanuel Pont, de l'alimentation, de l'agriculture. On dit souvent, d'ailleurs, on entend, il va falloir nourrir, au-delà de la consommation matérielle, éventuelle, etc., ou des émissions de gaz à effet de serre, c'est peut-être les émissions d'ailleurs liées à l'agriculture, mais il faut nourrir tous ces gens-là.
Tout à fait, on le voit depuis Ehrlich ou Dumont d'ailleurs, c'est un des éléments importants du débat. Aujourd'hui, on sait qu'on peut tout à fait nourrir 10 milliards de personnes, tout comme on pourrait nourrir tout le monde. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est simple. Il y a un certain nombre de changements qui sont possibles, parmi lesquels manger moins de viande, gaspiller moins, changer un certain nombre de pratiques agricoles. Donc on sait comment faire pour nourrir 10 milliards de personnes de manière soutenable, mais c'est un effort important.
Valérie Golaz, est-ce que dans les modélisations, on prend en compte les grandes pandémies comme celle que nous vivons en ce moment avec le Covid pour justement se projeter autour de la population future?
Ben, j'imagine que les modélisations futures prendront en compte les événements passés, donc ce genre de choses rentrera en compte, mais c'est impossible de prédire ça à l'avance. Donc que ce soit une guerre comme la guerre en Ukraine ou une épidémie, on n'a pas d'éléments qui peuvent nous amener à inclure ça dans les projections à venir, en quelque sorte.
Comment vous réagissez, Laure Noyla, à une figure comme Jean-Marc Jancovici qui déclare que ou bien on régule nous-mêmes ou bien ça se fera par des pandémies, des famines ou des conflits?
Alors, pour suivre les questions environnementales depuis plus de 25 ans, je peux pas dire que l'avenir soit particulièrement riant, et soit on régule nous-mêmes. Je pense qu'il, lui, il est plutôt spécialisé dans les questions énergétiques. Donc, effectivement, la sobriété énergétique, avant toute chose. Il a récemment parlé des questions démographiques.
Mais là, il parlait de démographie.
Oui, de démographie.
Ouais. Oui, il parlait vraiment de démographie. Il dit qu'à 10 milliards, on peut pas vivre sur Terre.
Il y a eu des scénarios, dans le passé qui disaient qu'en 2100, on est peut-être 10,5 milliards, mais toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sans événements majeurs, et on peut très bien se retrouver à 3-4 milliards à la fin du siècle, si tant est qu'il y ait quelque chose d'un peu plus dangereux que le Covid-19, quoi.
Emmanuel Pont, réguler soi-même, ça veut dire quoi, alors, exactement? Ce serait opérer, justement, une transition démographique sans contrainte, hein?
Alors, je pense que là, ce dont parlait Jean-Covici, ouais, c'était plus sur la consommation, la société et la manière dont on vit et notre impact écologique.
Donc, la sobriété.
Plutôt que sur la population.
Plus que le contrôle de la fécondité, alors.
Voilà. Le contrôle de fécondité, on l'avait déjà abordé rapidement, c'est quelque chose qui a très peu d'effet, qui est très lent, parce que les gens vivent longtemps, parce que le temps que des décisions sur la fécondité se traduisent sur l'ensemble de la population, il faut une, deux, plusieurs générations. Et donc, à l'arrivée, c'est pas quelque chose sur lequel on peut compter. Donc, par exemple, si on veut rappeler à une échelle de temps, l'objectif pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, c'est que l'humanité atteigne la neutralité carbone autour de 2050. On voit 2050, c'est dans 30 ans.
Donc l'urgence écologique, eu égard à une fécondité maîtrisée, Laure Noyla, on n'y est pas du tout, alors, en réalité.
Ah, les rapports de temps ne sont pas là, c'est vrai. Mais encore une fois, les questions de confort de vie, parce qu'il n'y a pas que l'urgence climatique dans l'urgence écologique. Hein. Attention, on a parlé de, par exemple, de nourrir l'Afrique. Ok, on va peut-être leur transmettre une nouvelle révolution verte, une révolution verte 2.0 en Afrique. La fondation Bill et Melinda Gates s'y emploie en finançant des programmes avec de la haute technologie dans l'agriculture, des semences adaptées. Bon, mais le problème, c'est que on est dans des zones où parfois on est déjà dans des fournaises où rien ne pousse. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Je suis pas tout à fait sûre. Mais ce ne sont pas des systèmes isolés. Le Niger n'est pas un système isolé qui n'importe pas, n'exporte pas, n'importe pas sa nourriture. La question, elle se pose au niveau global. Elle est assez indémerdable, je dois dire. Mais effectivement, il y aura des problèmes d'approvisionnement. Ce qu'a dit Emmanuel, c'est vrai. Si on réduit la consommation de viande, qu'on la supprime quasiment, et qu'on a des agricultures un peu moins intensives, plus localisées, etc., on peut nourrir 10 milliards d'habitants sans problème.
Camille, un petit tour du côté des auditeurs.
Ouais, Franck nous écrit, c'est pas seulement justement, il rebondit un petit peu, c'est pas seulement un problème de consommation, mais aussi de partage de l'espace. Hein, nous n'arrivons plus à cohabiter avec le vivant, les autres espèces sauvages. La densité humaine est trop importante, arrêtons. Ça fait aussi, Emmanuel Pont, partie du problème aujourd'hui,
bien
ces
sûr.
Interactions.
Et on va revenir à cette question de l'alimentation, c'est qu'aujourd'hui la grande majorité de l'espace qui est occupé par l'humanité, c'est par l'agriculture, et la grande majorité de l'espace occupé par l'agriculture est par l'élevage et pour les céréales qui vont nourrir les animaux. Aujourd'hui, à peu près les trois quarts de la superficie terrestre occupée par l'humanité, c'est pour manger de la viande.
Donc on pourrait vous dire, il y a trop de monde alors, et plus il y aura de monde, plus ça va poser de problème.
On pourrait dire ça, effectivement, ouais. Toute chose égale par ailleurs, c'est le cas. Mais
il y a aussi, pardon, la décision.
Mais quoi?
Ah bah, mais.
Ce qui est important, le mais.
Ah bah, le mais, c'est que on sait de toute façon que pour répondre à la crise écologique, on ne sera pas toute chose égale par ailleurs. Il y aura un certain nombre de changements majeurs qu'il faudra faire et qui sont pas simples. Et l'histoire de l'humanité est en fait une longue suite de choses qui ne sont pas égales par ailleurs et qui changent sur le moyen terme.
Donc encore une fois, on pourrait être plus nombreux aujourd'hui, mais changer beaucoup de choses dans les paramètres et nos modes de vie aujourd'hui pour que ce soit soutenable.
Hein. C'est pas forcément c'est pas forcément souhaitable non plus qu'on soit plus nombreux. Si on revient à cette question de l'Afrique, je pense que tout le monde est d'accord que on aimerait que l'Afrique fasse sa transition démographique plus vite.
Ce que je voulais dire moi, c'était juste la densification qui amène au développement des villes aussi et donc aussi
à. Oui, à Abidjan par exemple, il y a un
étalement.
Un article il y a pas longtemps, mais il y a ce parc national en Côte d'Ivoire. Abidjan est en train d'ériger un mur pour protéger. Ce parc, c'est un fait assez rare, est au milieu de la ville, et à cause de l'urbanisation galopante, on voit que la biodiversité est entamée par l'empiétement humain.
Allez, un petit clin d'œil à votre chronique de tout à l'heure, Camille Cronier. L'amour à la plage, pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus dans l'eau, c'est Niagara sur France Inter. Sur France Inter.
France Inter. La Terre au carré.
Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète? C'est le titre d'ailleurs de votre ouvrage, Emmanuel Poncher-Payot. Laure Noila est également avec nous et Valérie Golaz en duplex de Marseille. Il y a ce message de Pierre. Vite, dit-il, il reste à peine 10 minutes d'émission et on n'a pas vraiment la réponse. Alors, vasectomie ou pas pour moi, demande Pierre. Alors, qu'est-ce qu'on lui répond sérieusement, Emmanuel Poncher? Si on veut là aussi synthétiser finalement les idées qu'on a évoquées pendant cette émission, à quoi on répond sur cette question de faut-il arrêter de faire des enfants aujourd'hui?
Alors, moi je réponds que ce n'est pas nécessaire, mais que si des gens considèrent, pour un certain nombre de raisons qui leur appartiennent, et qui ne se limitent pas à l'écologie évidemment, qu'ils ne souhaitent pas avoir d'enfants, très bien, qu'ils fassent une vasectomie, c'est très pratique, ça marche très bien, je leur recommande. Je ne ferai pas le choix à leur place.
Mais vous rappelez dans votre livre que la démographie n'est pas du tout déterminante
Alors que s'ils ont un enfant, il aura un poids écologique qui existera, qui sera non nul. Alors j'avais proposé un contre-calcul qui arrive à une tonne par an de CO2, ce qui est beaucoup moins que 60, mais qui n'est pas zéro. Mmh. Donc s'ils veulent ne pas, on va dire, infliger à l'humanité ce poids, c'est tout à fait leur choix. Et qu'après, sur la question du futur, pareil, elle est à eux.
Valérie Golaz, qu'est-ce que vous répondez, vous, à Pierre, alors, pour conclure?
Bah oui, c'est toujours difficile d'être plus nombreux, mais il faut toujours respecter les droits humains et les libertés individuelles. Donc je suis du même avis qu'Emmanuel Pons. S'il a envie de ne pas avoir d'enfants, très bien, mais si d'autres ont envie d'avoir des enfants et qu'ils ont certainement de bonnes raisons pour, à ce moment-là, ils ont aussi le droit de les avoir.
Laure Noila, pour terminer, c'est vous qui avez le mot de la fin. Attention à ce que vous allez dire.
Je dirais que c'est une question intime qui ne concerne que lui et que de toute façon, il y a une inertie démographique qui nous amène à 10,5 milliards d'individus d'ici à la fin de ce siècle. On aura beaucoup d'autres problèmes avant.
Et puis on peut lire évidemment ce dossier complet, 4 articles qui sortent aujourd'hui même.
Aujourd'hui, l'ensemble des articles. Demain, la question africaine. Après-demain, le vieillissement qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais qui est intéressant.
C'est une autre entrée
importante. Moins pour des questions écologiques que pour des questions d'organisation sociale. Et puis pour finir, les petits exemples de transition démographique hyper rapide dans l'histoire de l'humanité et qui n'ont pas été coercitives.
Et tout ça, c'est sur reporter.net, le quotidien de l'écologie. Merci beaucoup à tous les trois. Emmanuel Pont, donc votre ouvrage chez Payot. Merci.